Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Parlons politique avec Philippe-Vincent Foisy, puis dans un instant, Antoine Robitaille. Monsieur Foisy, Monsieur Robitaille, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Monsieur Foisy, bonjour.
Ben oui, c'est juste nous deux.
Bon, parfait.
Ça va être bon quand même.
Là, ce matin, on n'a pas eu le temps d'en parler, là, mais moi, je comprends pas les règles aux aéroports. Là. Si tu vas aux États-Unis 3 jours de temps, t'as pas besoin de te faire tester, mais si tu vas à Miami, c'est correct, mais si tu vas en Florence, en Provence, en France, pendant une semaine, faut que tu te fasses tester.
Exact. Donc, en ce moment, dans le fond, la seule occasion pour laquelle il n'y a pas de test PCR requis, qui doit être présenté 3 jours avant le retour au pays, c'est aux États-Unis. Donc, si vous allez passer, par exemple, une journée à Burlington, vous n'avez pas besoin de vous faire tester à Montréal, d'amener votre test avec vous pour montrer qu'il y a 3 jours, vous étiez à Montréal puis que vous étiez négatif à la COVID. Donc, c'est un peu pour régler cet aspect-là de confusion dans des voyages de moins de 72 heures. Mais si tu vas à Miami une semaine, faut que tu présentes en revenant au pays un test PCR négatif. Pour le moment, c'est ça. Après, ce qu'on a annoncé hier avec Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, plutôt cette semaine, c'est que pour tous les voyageurs internationaux, sauf en provenance des États-Unis, on va ajouter une autre couche, comme a dit Justin Trudeau tantôt, une extra couche qu'on va ajouter dans les aéroports, c'est-à-dire que tous les voyageurs internationaux vont devoir se faire tester à leur arrivée. Là, Benoît, tu vas me dire, ben OK, comment ça va se faire? C'est compliqué, parce qu'à une époque, il y a quelques mois, on avait seulement 4 aéroports qui acceptaient les vols internationaux. Donc, c'était facile d'avoir des tests dans ces aéroports-là. Mais maintenant, tu peux revenir de l'international pas mal partout au pays. Donc, c'est pour ça que le gouvernement n'a pas mis de date en ce moment précise pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure-là. D'abord, parce que c'est compliqué. Il va falloir organiser les douanes comme on l'avait fait il y a quelques temps. Il va falloir ramener des ressources pour faire les tests. Il va falloir ramener des ressources aussi pour avoir les résultats de ces tests-là. Donc, on s'entend que ça va ajouter une grosse lourdeur aussi dans le processus de dépistage.
Puis croire les gens sur parole aussi. Là, vraiment croire les gens sur parole. Retournez chez vous, puis
attendez le résultat du test.
Mais
est-ce que vous attendez une journée? Est-ce que vous attendez 4 heures? Est-ce que vous attendez 72 heures? T'sais, ça change les choses. Si vous partez dans le sud une semaine, surtout avec Noël et le jour de l'an qui sont le week-end cette année, vous revenez le dimanche, puis vous pensiez pouvoir retourner travailler le lundi, eh bien, va peut-être falloir que vous attendiez quelques jours parce que ça se peut que vous soyez forcé de vous isoler encore une fois quelques jours en revenant de vacances. Alors, c'est ce qui est un peu compliqué en ce moment. C'est normal que ce le soit, ceci dit, parce que c'est pas facile d'imposer cette nouvelle mesure-là. Et à tous les voyageurs, si jamais vous demandez ce que vous devez faire, ben sachez que ça se peut qu'il y ait d'autres mesures qui soient ajoutées au cours des prochaines semaines.
C'est pas
fini.
Si on
découvre un nouveau variant, si on découvre un nouveau problème, sachez que si vous êtes en Afrique du Sud en ce moment, vous êtes pris là-bas. Mais ça se peut que ça vous arrive aussi dans un autre pays au cours des prochaines semaines.
Restez donc chez vous. Restez dans la maison.
Ben allez visiter le Québec, allez faire du ski, profitez de l'hiver, c'est tellement le fun.
L'hiver, tu me donnes le goût.
C'est tellement beau l'hiver.
Lâche-moi.
C'est magnifique l'hiver.
Mets-en pas plus toi.
Hey, ce matin, là, à 4h, il y avait des flocons, c'était le 1er décembre. Là, je me suis dit, est-ce que je fais de la musique de Noël dans mon auto ou j'écoute les nouvelles? J'ai écouté les nouvelles, mais j'étais quand même heureux. Là. Juste cette neige-là me procurait le bonheur.
Moi j'ai couru ce matin, c'était magnifique au lever du soleil.
C'est vrai?
Puis on est bien quand il fait un peu frais comme ça, puis on fait du sport.
Moins 9, c'est comme idéal.
C'est
en tout cas, à Québec moins 9,
il fait un peu plus froid.
Je suis convaincu. Un mot sur les thérapies de conversion.
Oui, ça a été ramené sur la table à la Chambre des communes pour avoir un vote là-dessus. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que le gouvernement libéral veut interdire ces thérapies de conversion là, dans certains cercles, notamment religieux, où on dit qu'on est capable de convertir les homosexuels en hétérosexuels. Donc, on veut interdire ces pratiques-là au Canada. Ça fait 2 fois que le gouvernement essaye. Son projet de loi était mort au feuilleton quand il a prorogé dans la foulée du scandale We Charity. C'était rendu au Sénat, mais à cause de son élection, le projet de loi est encore une fois mort au feuilleton. Et là, on le ramène dans les premiers projets de loi avant Noël. Et les conservateurs vont avoir un vote libre encore une fois là-dessus. On se souvient quand même, il y en avait 62 la dernière fois qu'ils avaient voté contre le projet de loi pour interdire les thérapies de conversion. Alors, il y en a qui se disent, comment ça se fait qu'au Canada, on permette encore des votes libres sur un enjeu qui n'est pas vraiment un enjeu de conscience. On s'entend là, de faire en sorte que des jeunes homosexuels ne soient pas convertis de force dans leurs églises.
Ah, c'est ça! Moi, je pensais que c'était de convertir des gens en électeurs pour le Parti conservateur.
Ce qui est un défi
bien plus grand.
Mais je te dirais que le choix qu'ils font en ce moment d'avoir un vote libre là-dessus, la conversion ne se fera pas rapidement.
Non, monsieur. Du côté des cibles, je me répète là depuis ce matin, j'ai fait une entrevue avec Lucie Longchamp de la CSN.
Oui. Comment ça a été?
Ça a bien été. Là, moi, je savais pas.
T'es-tu fâché?
Non, je suis pas fâché. Je suis d'excellente humeur. Je suis juste un peu crinqué parce que je savais pas. Je suis un cabochon.
Mais aussi.
Qu'on offrait 420 millions et que les syndicats demandaient 426 millions. Qu'on a tout ça pour 6 millions.
Oui.
6 millions. J'en viens
puis
pas.
Puis là, on met beaucoup de pression sur les syndicats actuellement de la part du gouvernement. On dit que l'offre est généreuse.
6
mais
millions.
Les syndicats communiquent pas.
C'est une bonne prise, là.
Pour 6 millions, on pourrait régler. Tu dis, ben écoute, Gabriel Nadeau-Dubois, en chambre, a vraiment asticoté le premier ministre là-dessus en disant que une cuisinière, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans les cuisines, dans une école, gagne 5$ de plus par heure que dans une garderie. Donc, c'est ça que les syndicats veulent égaliser. Hein? Pourquoi on serait moins payé si on fait de la bouffe dans une garderie que dans une école?
La bouffe, c'est important là où ça dans coince. Une garderie. Là. Un CPE, la bouffe, là, c'est essentiel. Tu vas pas lui donner de la pizza décongelée.
Il manque de monde. Là.
En même temps, le gouvernement a énormément bougé depuis le début de la négociation.
6 millions. Éric Girard vient de mettre 740 millions qu'on n'avait pas demandé en bonbons niaiseux de 400$ puis 200$ par semaine. Ça, on l'a. Là, pour faire des gains politiques, 8$ par semaine, je vous donne un bonbon. Pour 6 millions, on tolère la grève, on reste dans... Je comprends pas ça.
Et là, c'est le syndicat qui dit ça. Hein?
Ouais, le chiffre est pas pareil à Québec.
Il faudrait voir avec le gouvernement, parce que le gouvernement dit qu'il a fait des pas de géant depuis le début de la négociation, qui a traîné cet été, alors que la ministre, elle dit qu'elle était vraiment disponible. Hein? Comme elle le dit, en chambre, une négociation, c'est pas un ultimatum, c'est pas j'accepte tout. Tu sais, les oppositions actuellement disent négocier. Ben oui, mais le gouvernement est là. Puis ils disent qu'ils cèdent à plein de choses du syndicat. Les syndicats bougent pas. Il faut qu'il y ait, tu sais, ça se danse à deux. Il y a un effort
c'est parce
qui
qu'ils
doit
cèdent sur
être
les
fait dans les deux.
Mais ils cèdent pas sur le reste. C'est là le problème. Puis le syndicat ne représente pas juste les éducatrices, mais représente tous les employés.
Mais vous voyez, les agents, comment on m'a dit ça, les agents, il y a des femmes qui travaillent dans les CPE qui sont là pour appuyer les éducatrices.
Les administratifs.
Non, les agents, j'oublie le terme, là, mais elles sont là pour appuyer les éducatrices face aux enfants qui ont des problèmes ou qui sont stressés ou qui ont, tu sais, des problèmes d'adaptation. Elles ont un rôle direct avec les enfants.
Mais, des agents en soutien pédagogique et technique.
C'est ça, exactement, c'est sûr. Mais alors, des termes qu'on... Tu sais, tu dis en soutien pédagogique, ça veut rien dire. Mais là, elle m'a expliqué qu'elles interviennent dans les groupes pour aider les éducatrices. Parce qu'il y en a des enfants qui vivent des divorces, des parents se divorcent, où il y a de la violence et on a besoin de les encadrer un peu plus. Mais elles ont un rôle tout aussi important.
Puis eux autres ont une augmentation de 6%.
En tout cas. Il y a M. Fitzgibbon aussi qui est dans ton agenda, Antoine.
Oui, c'est intéressant parce que M. Fitzgibbon est sur le grill, comme toujours, pour des questions qui sont liées de loin ou de proche à l'éthique, comme toujours. Et c'était récemment la vérificatrice générale qui a démontré que dans un des programmes là liés à la COVID, ben il y avait eu comme 14 000 prêts, puis il y a une vingtaine de prêts qui ont abouti sur le bureau du ministre et qui s'est servi de son pouvoir discrétionnaire pour agir là-dessus. Donc, les oppositions disent, montrez-nous la liste. Ça fait 2-3 périodes de questions qui dit, je veux pas vous montrer la liste parce que c'est risqué pour, ça fonctionne pas comme ça, il y a des informations confidentielles. Donc, je veux pas montrer la liste. Alors, aujourd'hui, il a répété cette réponse-là. Puis à la deuxième réponse, il a dit, ah ben, j'ai d'ailleurs un article ici d'il y a 5 ans qui était la ministre de l'économie. Dominique Anglade, et elle refusait de montrer une liste semblable. Donc, je trouve qu'il s'en est bien sorti aujourd'hui, le ministre Fitzgibbon. Mais évidemment, Lui, il soutient que la vérificatrice générale a eu accès à toute l'information. Puis ça fait 2-3 périodes de questions qu'il dit, ben écoutez, les commissaires, commissaires au lobbyisme, commissaires à l'éthique, ils ont accès à la fameuse information que je ne peux rendre publique pour des questions de confidentialité liées aux affaires. Mais là, la vérificatrice générale, elle dit qu'elle n'a pas eu accès à la fameuse liste. Donc, qui dit vrai? Moi, je le lis à la hausse sur la colline tout à l'heure, Monsieur Fitzgibbon. On verra, on va discuter de tout cela.
Parfait. Merci à vous deux. J'ai le maire de Québec en attente sur la 2. Oh. Alors, faut que je passe à un autre appel. Merci.
Mais moi, je reste là.
Oui, Antoine, on se reparle tout de suite après.
J'écoute ça.
Merci, Philippe Vincent.